Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
D'abord, un an en couple à se balader avec un sac à dos en Asie et en Amérique du Sud. Puis, 18 mois en camping-car avec des enfants en bas âge sur les routes d'Asie et du Moyen-Orient. Renaud et Marilyn n'en ont pas encore assez du voyage. Il y a tellement de cultures encore à découvrir, de paysages devant lesquels s'émerveiller, de rencontres à faire, d'instants à vivre intensément. Sans compter que les enfants grandissent et que c'est maintenant qu'il faut en profiter, me confie Marilyn. Alors, tant pis pour la cotisation retraite, c'est décidé. Renaud et Marilyn repartent pour un périple de 2 ans en famille. Je les rencontre quelque part dans un village de Bushman en Namibie. Quel est le programme de la journée, Marilyn ?
Le programme de la journée, ça va être assez cool. Repos, un peu d'école, puisque les enfants n'ont pas fait école ce matin. Et en fin d'après-midi, on doit retrouver notre guide et ils vont nous faire la démonstration des danses traditionnelles et des chants.
Donc danse traditionnelle, chant, école un peu cet après-midi parce que ce matin on n'a pas eu l'occasion. On est en Namibie, on est quelque part dans un endroit complètement improbable, pas loin du Botswana. Les danses en question, c'est des danses San du peuple Khoisan, ou qu'on appelle chez nous les Bushman. Je vous ai rencontré ce matin dans votre camping-car, un tour à 5. Donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs. L'idée, c'est de donner la parole à vos gens que je rencontre sur les routes du monde, ou alors en France sur les festivals. Et Regarde ailleurs, c'est quoi ? C'est élargir sa vision sur soi et sur le monde à travers des expériences de vie. J'aime beaucoup toute cette thématique du voyage parce que je pense que le voyage peut inspirer certaines personnes qui aimeraient se mettre en route et qui n'ont pas forcément l'occasion, l'envie ou en tout cas les clés pour pouvoir cheminer. Donc Marilyn et Renaud, le concept c'est de voyager à 5 en famille. Donc on va revenir un peu sur l'origine du projet. Comment est née cette idée un peu folle de se dire « bon bah allez, on quitte la France, on prend un camping-car et on part sur les routes du monde pour une durée quasi illimitée je crois ?»
Ce ne sera pas illimité. Comment est née l'idée ? En fait, on a toujours aimé voyager, Renaud et moi, depuis qu'on est jeunes. On a déjà eu l'occasion de faire un tour du monde en sac à dos que tous les deux, donc avant d'avoir les enfants. Et on a goûté à ce plaisir de voyager sur une longue durée. On était partis un an à l'époque et on s'était promis de le refaire avec des enfants. C'est déjà la deuxième fois en fait qu'on le refait avec les enfants, puisqu'on est déjà parti 18 mois avec le même camping-car sur la route de la soie, Mongolie et Asie du Sud-Est en 2015. Et donc là, on a repris la route en juin 2019. On est parti de France à nouveau, donc avec notre camping-car, et cette fois en direction de l'Afrique.
Comment est-ce qu'on prépare un voyage ? Parce que c'est quand même pas évident d'emmener 3 enfants, c'est souvent le choix des parents. Comment les enfants perçoivent ça ? Comment est-ce qu'on arrive à les motiver à se mettre en route ? Voilà, parle-nous un peu de cette préparation, ou parlez-nous de cette préparation.
Alors c'est complètement le choix des parents. Après on essaie d'associer les enfants. Là en plus nous, aujourd'hui ils ont quasiment 8 ans, 10 ans et 12 ans. Donc on a pu les associer. Partir en Afrique, c'était assez facile parce que bah, du coup, on a beaucoup parlé des animaux, de la savane, des paysages. Et puis globalement, à cet âge-là, tant qu'ils sont encore dans leur cocon familial, finalement, ça pose pas trop de difficultés. Ils sont plutôt partants pour tout. Et ils vivent vraiment dans l'instant présent, donc ils se projettent pas... Il ne se pose pas encore trop de questions. Donc la préparation, c'était décider l'itinéraire et puis les associer un peu, mais ça reste quand même la décision des parents, clairement.
Mais ce n'est pas le premier voyage.
C'est pas le premier voyage. Le premier avec eux, bah là, ils étaient plus petits. Notre dernier, Martin, avait 20 mois quand on a quitté la France. Et le plus grand avait donc 6 ans. Donc là, carrément, ils n'ont pas eu leur mot à dire. On les avait associés avec des coloriages. On avait acheté des livres de coloriage du monde, des histoires, des comptines asiatiques, des musiques du monde. Voilà, on avait fait un peu ce qu'on pouvait, mais c'est pareil. Et encore plus quand ils sont plus petits. Tant qu'ils avaient 2-3 jouets, leurs parents, le rituel de lire le livre avant de se coucher, ça pose aucun problème. Les enfants, ils s'adaptent énormément, enfin beaucoup plus que les adultes. ils se posent nettement moins de questions que nous. Donc du coup, eux, bon, ben voilà, on dort sur du sable aujourd'hui, bon, ben on dort sur du sable aujourd'hui, puis on va faire des châteaux de sable. Voilà.
Facile. Mais vous, parents, pourquoi avoir fait ce choix de les emmener sur les routes du monde? C'est vraiment cet appel du voyage qui était plus fort que tout, parce que vous êtes quand même un petit peu hors cadre. Si on prend ce qui se passe aujourd'hui en France, la plupart des familles restent tranquillement chez elles, en confiné en plus en ce moment. Donc qu'est-ce qui fait que vous ayez fait ce choix qui montre bien une différence par rapport à la norme?
Bah, c'est vraiment faire le choix de vivre une expérience, on va dire, humaine et familiale un peu différente. Après, on aime nos vies en France, hein, c'est pas une question de fuir quoi que ce soit, mais on est quand même un peu comme beaucoup de gens dans un espèce de train-train, boulot, week-end, vacances, transport, école, garde d'enfants. Et voilà, partir, ça permet de mettre un peu sur pause tout ça et puis de vivre des aventures un peu différentes. Et avec ses enfants, c'est encore, j'irais, ça apporte encore plus quelque chose puisque ça grandit super vite les enfants. Moi, je vois mon grand, il a déjà 12 ans, j'en reviens toujours pas. Donc ça permet vraiment de vivre des choses émotionnellement et humainement assez fortes avec eux 24 heures sur 24. Alors c'est pas non plus, enfin on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, c'est pas non plus tous les jours facile d'être 24 heures sur 24 avec ses trois enfants, ou avec son mari d'ailleurs. Mais globalement, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc on avait envie, voilà, on avait eu la chance de le vivre à deux déjà, de pouvoir partir sur les routes et de voyager sur une longue durée. Ça, enfin, c'est vraiment différent que de partir trois semaines par-ci par-là, quoi, parce qu'on a le temps. Du coup, il y a beaucoup moins de plans, finalement il y a beaucoup moins de préparation, c'est beaucoup plus au fil des rencontres, au fil du jour. Plus on voyage, plus on va lentement en plus, pour prendre le temps de rencontrer les gens, de ne rien faire parfois, juste de de se poser puis de profiter de la vie telle qu'elle est. Et avec des enfants, du coup on profite aussi et on voit ses enfants grandir, on voit ses enfants découvrir des choses avec nous et c'est assez fort et on est content de pouvoir vivre ça, a fortiori dans cette période un peu particulière. On est content d'échapper à l'ambiance qu'on sent vraiment morose en France et en Europe plus largement. Voilà, ici c'est quand même différent.
Et donc les enfants, donc là vous êtes arrivés ce matin à Tsumkwe, les enfants s'adaptent facilement comme ça, tous les jours, changer de cadre, de lieu, d'endroit, d'environnement?
Bah oui, ils s'adaptent vraiment bien. Là, ils ont fabriqué des arcs avec les San, là. Et puis là, ils sont en train de s'exercer à tirer au tir à l'arc. Il y a deux jours, on était entourés d'hippopotames le long de l'Okavango. Non, ils s'adaptent. Hein. Enfin, il n'y a pas de... Ouais, vraiment, ils s'adaptent très facilement. Ils jouent avec ce qu'il y a autour. Parfois ils jouent avec les enfants locaux, mais c'est pas si spontané parce que nous ils sont trois rapprochés, donc ils ont tendance à vivre un petit peu dans leur bulle. C'est plus facile, il n'y a pas la barrière de la langue, il n'y a pas la barrière de la culture, mais ça nous arrive quand on reste un petit peu longtemps. Ils vont jouer avec les gamins, les parties de foot, ils sortent les coloriages, on fait des ateliers coloriage avec les gamins des villages. Parfois on passe des dessins animés sans parole là, ou des films d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a mis la dernière fois? Le truc avec les insectes là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Microcosmos ou l'autre, il y en a un autre. Mais voilà, on installe l'ordi dehors et puis on avait une trentaine de gamins qui étaient en train de regarder le cinéma.
Dans des projections dans le bouche.
Regarde ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Renaud, on va peut-être parler un peu de ce mode de locomotion. Donc, vous avez choisi le camping-car pour voyager à 5. C'est toi le pilote, comment tu as choisi ton véhicule? Pourquoi ça? Enfin, parle-nous un peu de la logistique et du camping-car, de cette voiture qui vous emmène partout sur les routes du monde, en tout cas les routes d'Afrique en ce moment.
Eh bien, on s'était renseigné un petit peu auprès d'autres familles, de voir ce qu'elles avaient choisi, l'agencement, la motorisation. Et en fonction de ça, nous avons choisi le nôtre de camping-car. On voulait avoir de l'espace à l'intérieur, disponible pour pouvoir un peu se déplacer et pas être trop les uns sur les autres. On voulait aussi que chaque enfant ait son propre lit et donc son propre environnement. Donc ils ont leur propre chambre. Voilà. Nous aussi, on a notre propre chambre parce qu'on a une capucine au-dessus du poste de pilotage. Et on ne voulait pas déplacer les lits, refaire les lits tous les jours. Voilà, nous, on voulait avoir des lits fixes. Au niveau de la motorisation, on voulait avoir quelque chose de robuste et qu'en cas de problème mécanique, qu'on puisse à l'étranger trouver des pièces de rechange en cas de problème. Donc voilà.
Mais là, donc le projet s'appelle Un Tour à 5, on en parlera après, hein, untouracinq.com. J'aimerais bien savoir ce qu'on peut voir sur ce site en surfant sur le web. Mais là, je vous rencontre donc en Namibie, vous venez de Marseille. Ça fait quoi? Ça fait 10 000 km, plus que ça, pour venir jusqu'ici, en camping-car?
Oui, ça fait un peu plus de 10 000 km, voire 20 000. On n'a pas compté, mais on a fait toute l'Afrique de l'Est. On a pris un bateau, on est allé jusqu'en Italie, on a pris un bateau vers Israël. On a visité Israël, la Jordanie, puis l'Égypte et toute l'Est de l'Afrique. Après l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda rapidement. Parce que le Covid commençait à se faire sentir et on voyait les frontières qui commençaient à se fermer en Afrique. On est allé en Tanzanie et après la Tanzanie, on a continué vers la Zambie, un petit bout de Botswana et voilà, nous sommes en Namibie. Le véhicule tient le choc, même après avoir passé 18 mois en Asie et là presque autant en Afrique. Donc il est robuste et il nous emmène encore, j'espère encore long.
18 mois en Asie, donc c'était sur la route de la soie, c'est la même voiture, le même camping-car qui vous a emmené à travers l'Asie centrale pour maintenant se retrouver ici en Namibie. Mais on peut donc voyager dans des pays, parce que j'imaginais l'Afrique sans 4x4, c'est quasiment pas possible, alors que si, vous prouvez qu'on peut très bien s'en sortir. Et se faire du hors-piste aussi avec un camping-car classique.
Alors en Afrique, la plupart des gens n'ont pas de 4x4. Ils ont des véhicules de tourisme classiques, donc eux circulent. Donc si eux circulent, nous on peut circuler. Après, effectivement, il y a certaines pistes qui sont compliquées, notamment en saison des pluies, ou à cause du sable, à cause de la boue, ou à cause de grosses ornières. Donc effectivement, sur ces parties-là, nous on ne pourra pas y aller. Mais sur la grande majorité des réseaux, enfin, en tout cas du réseau principal, pas de problème. Le réseau secondaire, ça dépend. Voilà, ça dépend les pays, ça dépend le climat, ça dépend de plein de choses.
Parce que là, la piste qui nous mène jusqu'à ce village est une piste de 4x4, ensablée. Tu ne t'ensables jamais. Comment tu as fait pour passer? Même nous, hier, on a dû passer les 4 roues motrices parce qu'à 2 roues, ça passait pas.
Alors, sur la route principale, disons, pour venir jusqu'ici, ça va parce qu'elle est très... Elle est gravillonneuse, c'est des gravillons, et donc là, il n'y a pas de souci. En revanche, les 6 km pour venir ici, où il y a beaucoup de sable, on n'est pas 4x4, mais on a réussi à venir. On a dégonflé les pneus. Et en fait, avant de partir de France aussi, on a changé nos pneus. On a mis des pneus un petit peu tout chemin, pas tout terrain, mais un petit peu tout chemin. Et donc, ils sont plus efficaces, que ce soit un petit peu dans la boue, alors pas trop non plus, mais dans le sable aussi. On a réussi à franchir des portions de route avec beaucoup de sable et ils sont assez efficaces.
Il y a quand même des histoires où la voiture est restée bloquée dans une ornière sans possibilité d'en sortir pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours.
Oui, ça nous est arrivé, on a eu du mal à sortir, notamment en Zambie, là récemment, donc c'était le mois dernier, où on a pris une route qui nous a été conseillée par d'autres voyageurs en 4x4, mais quand eux sont passés, c'était sec. Et nous, quand nous sommes arrivés sur cette piste, il pleuvait, il avait plu quelques jours avant et même le jour où nous sommes passés, il pleuvait. Et donc c'était très boueux et on a tenté, on s'est dit qu'il y avait, la possibilité, la possibilité était mince mais elle était faisable. On a tenté, On n'a pas réussi. Donc on est resté coincé en tout 3 heures. Et pendant ces 3 heures, les gens du village sont venus voir un peu ce qui se passait. Et de suite, ils nous ont proposé de nous aider parce qu'ils ont l'habitude. Et donc ils nous ont aidés. Et donc on a réussi à sortir en 3 heures. Voilà, en mettant des pierres, des branches, tout ce qui passait autour pour pouvoir sortir de cet endroit boueux.
De voyageurs qui voyagent en famille. Tu peux m'en parler ?
Oui, effectivement, en fait, on est pas mal de familles avec enfants à voyager comme ça sur les routes du monde. Alors normalement, Afrique, c'est pas la partie du monde la plus prisée, on va dire. Il y a pas mal de gens qui vont plutôt sur les Amériques ou depuis quelques années sur l'Asie, comme on a pu faire aussi. On a une communauté, par exemple, on est sur un groupe Facebook qui réunit comme ça des familles qui voyagent sur une longue durée avec un ou plusieurs enfants, véhicule ou sac à dos d'ailleurs. Et là, il se trouve que dans cette communauté-là, on était plusieurs à être... Alors nous, on était déjà en Afrique, mais avec le Covid en ce moment et les frontières fermées, alors en Asie complètement, et ça reste compliqué sur les Amériques. Et du coup, il y en a pas mal qui se sont rabattus, entre guillemets, mais avec bonheur sur l'Afrique. Et là, en ce moment, si je ne me trompe pas, en tout cas à ma connaissance, hein, parce que je ne connais pas non plus tout le monde, mais on est 12 ou 13 familles sur Namibie, Afrique du Sud, Zambie, Kenya, Tanzanie, voilà, sous cet axe-là. Et on est, du coup, on a un groupe WhatsApp, donc on est en contact et on essaie de se donner des petits rendez-vous quand on sait qu'on n'est pas très loin. Donc là, on vient de quitter, on a passé 2 jours avec deux familles françaises qui, normalement, avaient prévu de partir sac à dos en Asie et en Amérique du Sud, et puis finalement, qui se sont retrouvées en Namibie, qui ont loué un 4x4, et on s'est retrouvés dans le nord, ce qu'on appelle la bande de Caprivi, là, la partie nord-est de la Namibie. On a passé 2 soirées ensemble, et il se trouve que ces familles-là, il y en a une qu'on avait rencontrée en Suède il y a quelques mois et l'autre avec qui on avait passé 10 jours à Zanzibar. Donc en fait, c'est un petit monde, les familles voyageuses.
Et quel est l'intérêt de se retrouver comme ça ? C'est vraiment pour les enfants, pour que les enfants puissent créer du lien avec d'autres enfants ?
Alors, à vrai dire, c'est pour les deux. C'est pour que les enfants créent du lien avec les autres enfants. Et de fait, ils créent moins de liens avec leurs propres parents, ce qui permet aux propres parents de pouvoir boire l'apéro tranquillement. Donc, c'est du gagnant-gagnant pour les parents et pour les enfants. Non, puis généralement, alors on peut avoir après des modes de vie et des modes de voyage très différents, mais on est toujours câblé. On a au moins un sujet en commun, c'est l'amour et la passion du voyage et de la découverte, même si après on ne le fait pas forcément tous de la même façon. Donc ça crée, on va dire, un point commun qui fait que souvent on accroche bien avec ces familles-là. Et puis les gamins accrochent aussi. Il y a pas mal d'enfants en plus qui sont dans la même classe d'âge que les nôtres, parce que c'est une partie facile à partir. Ils sont grands, autonomes, mais c'est pas encore le lycée, donc ils râlent pas trop pour partir avec les parents. Donc c'est vraiment c'est des très très bons moments qu'on passe ensemble, et puis on se passe du coup des tuyaux sur les pays, sur la manière de voyager, voilà.
Donc ça fait 1 an et demi que vous avez quitté Marseille, le voyage en est à la moitié je crois, tu me parlais d'une durée de 3 ans. Comment est-ce qu'on fait pour garder l'endurance aussi longtemps, sachant que souvent dans le voyage il y a une forme d'intensité et peut-être que des pauses sont aussi nécessaires? Comment on arrive à partir aussi longtemps?
Alors c'est vrai que on n'est pas tout le temps au taquet, on va dire, donc il y a parfois des petits coups de mou ou l'envie de rien faire, parfois ça arrive, j'ai juste pas envie de visiter, pas envie de sortir du camping-car. L'avantage avec notre camping-car, c'est que on a notre environnement avec nous, donc ces petits coups de cafard, on peut les gérer facilement, on se fait 1 ou 2 journées pyjama, et puis après, généralement ça repart. Pour l'instant, on n'a pas de lassitude. En plus, le Covid nous a quand même un petit peu bouleversé aussi nos projets de voyage. Donc, on a fait une pause en Europe. Donc, on a revu une partie de nos familles et de nos amis, alors que c'était pas prévu. On est allé dans une autre partie du monde, c'était pas prévu non plus. Donc, voilà, ça a créé un peu le si routine il y avait, encore qu'il n'y a pas vraiment, mais notre ami Covid a pu bouleverser un peu tout ça, quoi.
Oui, parce que voyager en temps de Covid, on a souvent l'impression que c'est pas possible, alors qu'en fait, si, il y a des gens qui le font. Et donc les pays, effectivement, certains sont fermés, mais d'autres pas. Là, vous en sortez avec un test PCR. Comment est-ce qu'on voyage en temps de Covid?
Alors nous, on est passé vraiment, pas vraiment au travers, mais en tout cas, on s'en sort très 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 bien. Donc on était en Ouganda quand les frontières en Afrique ont vraiment commencé à se fermer et qu'on s'est dit qu'on allait être coincé quelque part. Donc on a choisi d'être coincé en Tanzanie, qui nous permettait d'avoir un accès à la mer si jamais les prévisions de catastrophes humanitaires en Afrique se réalisaient. On aurait pu partir, voilà, on avait une porte de sortie. On est resté 2 mois au bord de l'océan Indien, dans un endroit magnifique, mais on était tout seul. C'est vrai qu'on s'ennuyait un petit peu, comme beaucoup de gens pendant le confinement. On a fini par comprendre que ça allait durer un peu plus. Les frontières étaient vraiment, vraiment fermées et hermétiques en Afrique. Donc on a pris un vol, on a laissé notre véhicule à Dar es Salaam en Tanzanie. On a pris un vol pour Londres et ensuite pour le sud de la France. Mi-mai, mais bon, nous on n'a plus rien en France, on a vendu notre maison pour financer le voyage, donc on est retourné chez mes parents, qu'on adore au demeurant, mais enfin c'était pas du tout envisageable de rester plusieurs mois chez eux. Donc on a racheté un camping-car d'occasion dès qu'on a pu, donc au bout de 3 semaines, et on est parti en Scandinavie. Donc là c'était l'été, été 2020, et en Scandinavie c'était il y avait pas de restrictions, aucune, pas de test, pas de masque, vraiment aucune restriction en Norvège et en Suède tout le temps qu'on y était, donc de juillet à novembre. Et ensuite, il commençait à faire frais quand même en Scandinavie en novembre. Et les frontières d'Afrique, entre-temps, avaient rouvert entre octobre et novembre. Donc on s'est dit que c'était le bon moment pour y retourner. On a eu l'opportunité incroyable de vendre en Suède le camping-car d'occasion qu'on avait acheté. Donc on a saisi immédiatement l'opportunité et puis on a pris un vol de Suède en Tanzanie directement avec 100 kilos de bagages et nos affaires d'hiver, et on a retrouvé notre camping-car pour poursuivre le chemin ici. En Afrique les gens portent le masque dans les endroits fermés, enfin les magasins, les banques, les commerces, les choses comme ça, et encore pas partout. Et par contre, il faut des tests, des tests PCR pour franchir les frontières. Comme nous, on voyage relativement longtemps. Voilà, on a passé 2 mois en Tanzanie là quand on est revenu, 7 semaines en Zambie. Là, on compte passer 2 ou 3 mois en Namibie. Donc, ça permet quand même d'espacer suffisamment les tests pour pas que ce soit trop pesant. Et puis surtout, je pense que l'ambiance est très différente de l'Europe. Ici, c'est quand même relativement détendu, même si les gens font attention. Enfin, je pense au Botswana ou en Zambie, notamment la Namibie, je ne sais pas encore trop. Mais en Zambie, ils font attention, mais ça reste dans la bienveillance. Il n'y a pas d'inquiétude plus que ça.
Mais donc vous avez vu le continent se vider. Vous êtes parti avant l'arrivée du Covid. Donc tu as vraiment observé ça, hein, le nombre de voyageurs qui a commencé à diminuer jusqu'à être quasiment nul aujourd'hui en Afrique.
Ah ouais, clairement. Et puis du coup, il y avait une grosse solidarité aussi entre les voyageurs à ce moment-là, parce que personne ne savait ce qu'il fallait faire. En mars 2020, c'était vraiment de grosses interrogations. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Que font les autres? Donc on était vraiment à fond pendant quelques semaines là sur les réseaux, parce que voilà, il y a des réseaux de voyageurs, et ceux en Afrique, on suivait les uns les autres, qui étaient dans quel pays, et beaucoup, la plupart des gens ont choisi d'ailleurs de rentrer immédiatement, mais on est quand même quelques-uns à avoir choisi de rester, et certains sont même restés toute la durée. Certains sont restés 6 mois dans un seul pays en attendant que les frontières rouvrent. Et là, on voit encore l'impact aujourd'hui. Il y a quand même très peu de visiteurs encore aujourd'hui en Afrique. Quand je vois que Etosha, le plus grand parc de Namibie, les campsites sont complètement vides, alors que normalement il faut les réserver 9 mois à 1 an à l'avance. Alors que là, on sait qu'on sera tout seul.
Et on se rend compte aussi à quel point le tourisme est un manque à gagner pour les locaux. Et ça peut être assez dramatique, cette crise sanitaire, pour les populations locales qui ne voient plus les touristes et dont l'économie est intimement liée à leur survie, quelquefois.
Ouais, nous, on l'a vraiment senti en Zambie. Moins en Tanzanie, parce qu'en Tanzanie, politiquement, il n'y a pas le Covid là-bas. Donc, puisque le président a affirmé qu'il n'y avait pas de Covid en Tanzanie, donc... Pour le coup, il n'y a aucune restriction et rien du tout qui est fait. Mais il y a aussi pas mal de touristes qui continuent à venir, parce que du coup, il n'y a pas besoin de tests PCR. Enfin bon, après, je ne jugerai pas du bien fondé ou pas de ça. Mais toujours est-il que du coup, il y a des touristes quand même en Tanzanie. Mais en Zambie, il n'y a personne. Et à Livingstone, au chute Victoria, on est passé devant les stands de souvenirs. Mais les gens, ils crèvent de faim, littéralement. Ils vendent, ils bradent leurs souvenirs simplement pour avoir un peu de liquidité et pour pouvoir acheter leur repas du soir. On a une amie qui a acheté un bracelet qu'il a négocié. Enfin, elle en a acheté plusieurs. Puis le lendemain, elle dit « Oh, ben, je vais y retourner parce que ben, j'ai envie d'en racheter plus, finalement. » Et elle s'apprête à payer le même prix. Et puis là, le vendeur, il lui double le montant. Alors elle dit « Bah non, enfin, tu me reconnais, hier, je te les ai pris. » Et il lui dit « Mais oui, mais hier, ça faisait 2 jours que je n'avais pas mangé. J'avais vraiment besoin d'argent. Là, maintenant, j'ai le ventre plein, je peux tenir un petit peu. » Donc c'est vraiment... C'est l'impact du manque à gagner et de toute l'activité qui est à zéro. Enfin, les lodges, nous, sur le campsite sur lequel on a passé 2 mois en Tanzanie, normalement c'est un gros campsite, enfin c'est un gros lodge avec des emplacements de camping. Et je crois que le personnel, c'était une bonne quarantaine de personnes. Ils avaient déjà réduit à 10 quand nous, on y était. Et après notre départ, ils allaient réduire encore. Et puis là-bas, il n'y a pas de chômage, quoi. Donc les gens, on leur dit oui, on vous reprendra. C'est du congé sans solde, quoi. Ils ne sont pas licenciés en tant que tels, puisqu'ils devraient retrouver leur boulot quand ça reprendra. Mais en attendant, il n'y a pas une seule indemnité. Il faut qu'ils se débrouillent pour nourrir leur famille. Donc c'est... Non, la situation est vraiment catastrophique. Et du coup, ils accueillent les... Enfin voilà, en tant que touriste, on sent qu'on est attendu. Enfin, on sent qu'ils veulent que les touristes reviennent.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Sur un voyage de 3 ans au long cours, combien ça coûte de partir aussi longtemps ? Quel était votre métier d'avant ou votre métier maintenant, ou comment est-ce que tu vois la suite, le retour en France? Voilà, donne-nous un petit peu des clés de compréhension pour celui qui se pose plein de questions sur mais comment est-ce que c'est possible de partir à 5 en famille avec 3 enfants pendant 3 ans?
Alors, financièrement, c'est sûr que ça a un coût, hein, ça, on ne va pas se mentir. Alors après, professionnellement, pour prendre les choses dans l'ordre, nous, on n'a pas quitté nos emplois, donc nos emplois nous attendent. En tout cas, nos entreprises, on reviendra dans nos entreprises respectives en rentrant en France. Donc, on a pu prendre des congés sans solde sur une très longue durée qui ont été... accepté. Et pour Renaud est fonctionnaire, donc c'est un petit peu plus on va dire un petit peu plus facile. Tant que les enfants sont petits, il peut prendre une disponibilité donc non rémunérée, mais en tout cas qui peut pas lui être refusée. Moi je suis dans le privé, dans les télécoms, et bon, mon employeur a accepté, donc c'est une grosse entreprise, donc on est un peu interchangeable. Donc nous, on retrouvera nos boulots. Par contre, on a vendu notre maison pour financer, parce qu'on n'avait pas assez de liquidités. Après, on est sur un budget, on va dire, annuel de autour de 25 000 euros, tout compris pour nous 5. Donc tout compris, c'est les trajets maritimes qui coûtent très cher, les éventuels vols, les assurances rapatriement, et puis après toute la vie sur place, les visas, les tests PCR maintenant qui pèsent aussi sur le budget, les activités, le gasoil, la nourriture... à peu près, pour une famille de 5.
Donc c'est possible de le faire.
Ah ben c'est oui, je serais mal placée pour vous dire que c'est pas possible, ça fait plusieurs années. Après c'est des vrais choix, nous on roule en France, on n'a qu'une voiture, on roule avec des voitures assez, assez vieilles, on les termine assez souvent. Quand on est parti avec les enfants, quand ils étaient plus jeunes en Asie, on était déjà propriétaire de notre maison, on l'avait mise en location, donc ça nous avait remboursé l'emprunt. Donc oui, c'est possible. Après, c'est des choix, c'est des choix de vie. Et puis, enfin, je vous donne mon budget comme ça, mais ça dépend énormément de la façon de voyager. On a rencontré des familles avec enfants qui voyagent pour bien moins. On en a rencontré qui voyagent avec bien plus. Donc ça dépend aussi du budget de chacun et en fonction, ça, on peut adapter. Je pense qu'on peut faire encore moins cher.
Autre chose d'assez fascinant, c'est qu'en France, on n'a pas toujours conscience, on pense que l'école est obligatoire alors qu'elle ne l'est pas, c'est l'instruction qui l'est. Donc là, vous avez fait le choix de l'instruction en famille, donc sur les routes du monde.
Oui, exactement, c'est l'instruction qui est obligatoire en France. Alors sachant que la loi est en train quand même un petit peu d'évoluer la suite à la loi contre le séparatisme où justement notre président a décidé d'interdire l'instruction en famille. Nous c'était simple hein, en fait. Alors jusqu'à présent, il suffisait d'envoyer un courrier à sa mairie et à l'inspection d'académie de son secteur. Et on a le droit en tant que parent d'instruire ses enfants. Donc en quelque sorte, on s'engage à leur faire suivre le programme de leur classe d'âge. Après, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de passer par le CNED, donc qui est reconnu vraiment comme un organisme scolaire. Ou d'autres, hein, parce qu'on connaît le CNED, mais il y en a d'autres. Nous, on a fait le choix vraiment de ne pas passer par ces structures-là, qu'on trouvait un petit peu trop contraignantes, puisque pour que ce soit vraiment reconnu par l'éducation nationale, il faut vraiment faire toutes les matières, y compris arts plastiques, musique, biologie. Nous, on se concentre beaucoup sur les maths, le français, l'anglais... Et puis, on fait l'histoire. En plus, j'aime ça, donc c'est plus facile. Et puis, un peu de géographie de fait, mais pas forcément celle qui est au programme. Donc, on va dire qu'on adapte un petit peu, qu'on fait la structure de base, mais qu'on n'est pas inquiet du tout. Déjà, parce que les programmes en France sont faits de telle sorte qu'il y a des répétitions d'année en année, ou on va dire plutôt des approfondissements. Donc, même s'ils ont raté une notion, on sait qu'ils y reviendront plus tard. Et puis ça se fait bien. Après, c'est pas tous les jours facile parce que on n'est pas des profs. Du coup, ils n'ont pas vraiment le statut d'élève. Donc parfois ça se fait un peu dans la douleur, mais globalement ça se passe plutôt bien.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.